Bonjour. Je fais vraiment quelque chose d'inédit avec vous, hein. Je me surpasse. C'est ça qui est super avec Dieu, c'est que il nous pousse à nous dépasser toujours et toujours et toujours, jusqu'au bout. Et en fait, on progresse. Il y a... Si vous croyez que vous avez atteint votre maximum, avec Dieu, il repousse les limites. C'est excellent. Alors je dis ça en fait pour un truc tout simple, c'est que j'ai jamais prêché 3 fois d'affilée de ma vie. Donc comme le disait Jasmine, je vais continuer sur cette mini-série que finalement j'ai faite à moi tout seul. Et en fait, tout est parti d'une pensée toute simple et j'ose dire, je crois qu'il y a une clé pour clé. Il y a une clé pour nous, pour cette année, et c'est cette pensée que nous sommes fils et filles de Dieu, c'est une certitude, l'Esprit le dit profondément en nous, mais nous avons à prendre cette promesse et à la vivre pleinement. Nous avons à nous saisir de cette vérité et à la vivre, à l'appliquer, c'est-à-dire à devenir des fils et des filles de Dieu. Et c'est un pouvoir. Il y a un mot qui est autorité, exousia. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est donc une autorité que je crois être une vraie clé quand on prend à cœur de l'exercer et que le fils et la fille en nous grandissent. Alors, c'est le but de cette série, c'est de voir ensemble ben, grandir dans quoi? Parce que c'est bien de dire grandir, mais ça veut dire quoi en fait? Alors la dernière fois, je pense, j'ai dit beaucoup de choses. Et je vais juste redire l'essentiel de ce que j'ai dit. Nous sommes fils et filles, c'est une certitude. Donc on n'est pas là pour le devenir, on l'est déjà. Mais dans un sens, on devient ce qu'on est. Dieu cherche des fils et des filles. Dieu ne cherche pas des serviteurs. Jésus dit, les serviteurs, ils comprennent pas ce que fait le maître. Nous, on est appelés, vraiment, c'est l'appel pour nous d'être des fils et des filles qui comprennent, parce qu'ils ont ce cœur à cœur avec le Père, et ils comprennent intimement ce que fait Dieu et ce que Dieu veut faire à travers eux. Une autre idée encore, c'est que nous sommes des enfants, des fils et des filles, façonnés à l'image du Fils, avec un grand F. Qui est Jésus-Christ, le Fils par excellence de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, en fait, toute sa vie, il trace un chemin pour nous. Il est un grand frère pour chacun de nous, et il trace un chemin et il nous dit, suis-moi, imite-moi. Sois toi aussi ce fils et cette fille que j'ai manifesté quand j'ai marché. Et j'ai cité à la fin de ma dernière prédication, donc, un verset qui est beau. En Romains 8, la création attend la révélation des fils de Dieu. Et je trouve ça beau parce que bah déjà c'est touchant de se dire, bon, la création finalement c'est comme une personne, elle est personnifiée ici, puis elle attend tout cela à nous regarder et à dire, mais voilà, que le fils et la fille en chacun de nous se révèlent. Et cette révélation commence en nous-mêmes. On peut comprendre, accepter intellectuellement que nous sommes fils et filles, c'est dit, c'est écrit, on me le dit, je comprends, d'accord, mais ça demande une révélation. On comprend finalement qui on est. Et on saisit nos responsabilités, on saisit nos privilèges, on saisit tout un tas de choses qui ne nous étaient pas apparues avant. Donc tout cela a besoin d'être révélé. Et la dernière idée sur laquelle je vais continuer en fait, et je crois que c'est là où est particulièrement la clé pour clé, c'est le fait que Dieu, non, pardon, c'est le fait que le diable craint les fils. Et ça, c'est profondément biblique. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile, quand on fait la théologie. C'est en Genèse. C'est tout de suite après la chute, Dieu parle au serpent et il dit, la descendance de la femme écrasera ta tête. Et cette descendance, qui est-elle? Eh bien, premièrement, c'est Jésus-Christ, qui est la descendance, mais au-delà de Jésus-Christ, derrière Jésus-Christ, ce sont tous ses petits frères et ses petites sœurs, ce sont tous les enfants de Dieu, ce sont nous. Et il y a donc cette promesse que par ce que nous faisons pour Dieu, par ce que nous sommes, la tête du diable est écrasée. Et le diable craint les fils. Les fils qui se connaissent et qui prennent leur responsabilité, qui exercent leur autorité. Le diable craint cela. Et le diable craint particulièrement l'obéissance des fils et des filles. Et ça va être mon thème ce matin. L'obéissance. Il craint cette obéissance-là. Un petit rappel, imaginez-vous dans le jardin d'Éden, il y a Adam et Ève qui sont là, ils sont tout heureux, une béatitude. Et puis il y a le serpent qui arrive. Et puis ce serpent, il vient et il commence cette tactique. Il commence à les faire douter de ce que dit Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Et puis il commence à titiller, à allumer leur désir. Et puis il leur suggère la désobéissance, le péché. Et si tu croquais dans la pomme, tu deviendrais comme Dieu. Et on peut voir que cette tactique, elle commence dans nos pensées. Pas dans nos désirs, ça vient après, mais dans nos pensées. Et la conséquence, on la connaît tous, parce qu'on en souffre tous, c'est qu'il y a une porte qui s'est ouverte et qui a donné un pouvoir au diable et un accès au mal dans l'humanité, dans le monde. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces choses qui nous affectent et qui nous font mal. Alors, avec Adam et Ève, c'était vraiment facile pour le diable. Ils sont vraiment tombés dans le panneau facilement. Et puis, il y a un second épisode dans la Bible, c'est quand le diable attaque Jésus dans le désert. Jésus vient tout juste de se faire baptiser, il sort de l'eau, peut-être encore des gouttelettes d'eau en lui, puis il est poussé dans le désert par le Saint-Esprit, et là, le diable vient et l'attaque, et pareil, même tactique. Il le pousse d'abord à l'incrédulité. Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Et on voit que le diable fait plusieurs tentatives et qu'en fait, le diable a des tentatives de plus en plus fines, de plus en plus subtiles dans ses attaques. Et il attaque en fait la bonne compréhension de la volonté de Dieu en Jésus. Mais Jésus déjoue tout et le diable s'en va. Jusqu'à la prochaine occasion, mais il s'en va. Et là, ça nous montre tout de suite un fait, c'est que l'obéissance de Jésus repousse le diable. Que notre obéissance repousse le diable. Simplement parce qu'il n'a pas d'entrée, il n'a pas d'accès. Il est bloqué. Jésus disait à un moment à ses disciples, « Le diable n'a rien en moi. » C'est-à-dire que le diable a essayé, mais il n'a trouvé aucun levier, aucune porte d'entrée, ce qui fait qu'il ne peut rien faire. Alors mon but ce matin, c'est de nous parler de notre obéissance. Notre obéissance en tant qu'enfant de Dieu, notre obéissance à Dieu, premièrement. Et peut-être qu'au cours de ce message, vous allez être repris par le Saint-Esprit qui va vous montrer un point bien précis. Et dans ce cas-là, je veux vraiment vous encourager à écouter ce que vous dit l'Esprit. Mais je veux dépasser ce point, je veux aller plus loin que cela. Et je voudrais que se réveille en nous le désir d'obéir à Dieu. Plus que accepter d'obéir à Dieu puisqu'il le faut, mais le désir vouloir progresser dans notre obéissance. Voilà, c'est ça que j'aimerais, c'est mon but. Alors pour cela, je crois que la meilleure des choses, c'est de commencer par regarder Jésus. Regardez l'obéissance de Jésus-Christ. Et il y a un verset, alors c'est la deuxième slide, Yuli, en Hébreux 5.8, qui nous dit « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est présenté magistralement comme le Fils, dans les premiers chapitres, et puis après on voit toute son œuvre, tout ce qu'il a fait. Et il y a cette phrase qui est étonnante, parce qu'on se dit quand même « c'est Jésus ». Il n'avait pas besoin d'apprendre l'obéissance, c'était inné chez lui, c'était facile. Et en fait, non. Il a dû apprendre, bien qu'il soit fils, l'obéissance par par les choses qu'il a souffertes. Parce que Jésus a dû accepter la volonté d'un autre que lui-même. Ça, c'est pas facile. La volonté du Père et non la sienne. Et puis, sur le chemin de l'obéissance, il a rencontré la souffrance. Vous savez, c'est facile d'être obéissant quand tout va bien, mais quand ça commence à faire mal, c'est là où on voit où on en est par rapport à la question. Et Jésus, on le sait, a souffert. L'obéissance, c'est premièrement résister au péché, c'est résister au mal, c'est garder la loi de Dieu et s'y tenir. Mais l'obéissance, c'est même plus que cela. L'obéissance permet l'œuvre de Dieu. Donc c'est plus que respecter la règle, respecter la loi, mais c'est permettre à l'œuvre de Dieu d'agir à travers moi. Il y a quelque chose de puissant qui se déverse du ciel à travers notre obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance de Jésus a permis ? Il a permis deux choses. Première œuvre, je dirais, c'est que l'obéissance de Jésus vient exactement réparer la désobéissance d'Adam. Elle est mise comme le remède. Et il y a un verset qui dit cela clairement, c'est la slide suivante, Yuli, Romains 5, 19, qui nous dit « Par la désobéissance d'un seul, Adam, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. » Alors en fait, beaucoup, c'est tout le monde, tous les hommes. Mais de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Et là, ce n'est pas tous, mais c'est beaucoup. Beaucoup. Tous ceux qui vont accepter ce que dit Jésus. Et ça, ça nous montre que l'obéissance a un immense impact. Parce qu'elle ouvre une voie pour Dieu pour déverser sa grâce. Mais la désobéissance a aussi un impact. Elle empêche Dieu d'agir, et puis même, parfois, elle ouvre carrément des voies pour le diable. Alors là, j'ai une petite histoire à vous raconter à ce propos, pour vous montrer que finalement, l'obéissance n'est pas qu'une affaire entre Dieu et moi, mais que ça a un impact plus large. J'ai compris à quel point j'étais français en allant en Allemagne. Et vous connaissez un tout petit peu mon histoire, j'ai un papa vietnamien, j'ai une maman française. C'était un peu compliqué pour moi à l'adolescence. Du coup, je me disais, moi je me sens pas français en fait. Ouais, je suis un peu des deux, je suis peut-être le meilleur des deux, je sais pas. Mais je me sentais pas français. Et puis je me suis marié avec Heike, qui est donc une Allemande, une vraie Allemande, berlinoise. Et donc j'ai pu aller en Allemagne et j'aime beaucoup l'Allemagne. Mais là-bas, j'ai réalisé et j'ai apprécié mon côté français. Mais j'ai réalisé. Et vous savez, quand on va dans un pays étranger, j'imagine que ça fait ça partout, mais en Allemagne, on peut découvrir des choses qui existent en France, mais qu'on ne voit pas, dont on n'a pas vraiment conscience, des choses qu'on ne calcule même pas, mais qu'en Allemagne, on calcule tout de suite. Alors, je veux parler du feu pour les piétons. Alors moi, j'ai grandi dans le sud de la France, à Marseille en plus, et on se demande à quoi servent les feux pour piétons. C'est de la déco, ça coûte beaucoup d'argent en plus, mais je ne crois pas que ce soit très utilisé. Et vous savez qu'en Allemagne, quand vous traversez en tant que piéton au rouge, c'est très grave. C'est grave. Les gens, ils vous fusillent du regard, et parfois, ils vous reprennent. Et là, quand t'es français, ça te fait tout drôle, quoi. C'est une douche froide. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Mais en quoi ça vous regarde ? Au début, t'es choqué, quoi. Tu dis, mais de quoi ils se mêlent, les gens, là ? Et en fait, en discutant avec les Allemands, parce que ça t'intrigue tellement, tu poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour... C'est pas si grave. Et là, je comprends, on comprend que notre désobéissance, dans ce cas précis, a un impact sur la communauté, et particulièrement sur les enfants. Et du coup, pour eux, si son enfant, si leur enfant voit que tu traverses au rouge et après il fait pareil, t'es responsable. Notre désobéissance a un impact. Et on l'imagine même pas. Nous, on dit, ouais, c'est pas grave, c'est entre Dieu et moi, etc., etc. Mais en fait, c'est faux. Notre désobéissance a un impact. Ne serait-ce que spirituel, il a un impact. Alors, bon là, c'est le côté individualiste français qui ressort quand on va en Allemagne, parce qu'eux sont communautaires. Ils ont une dimension de solidarité, de communauté très forte. Mais voilà, notre côté individualiste français nous pousse, par exemple, à ce genre de choses-là, à dire, ouais, c'est pas grave, c'est entre Dieu et moi. En fait, l'obéissance, elle est liée à l'autorité, n'est-ce pas ? C'est le respect de l'autorité, c'est faire ce que l'autorité me dit, l'obéissance. Mais pourquoi il y a l'autorité ? C'est embêtant, ça. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose, c'est une vraie question en France. Pourquoi il y a l'autorité ? Et la Bible dit, parce que la création est ordonnée. Et que sans ordre, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. On voit ça dans la Genèse, il y a des jours bien précis, Dieu fait des choses. Dieu a créé les choses avec un ordre. Et l'autorité est là pour le bon fonctionnement des choses. Et du coup, la désobéissance, ça entraîne un dysfonctionnement des choses. Et Dieu fait toujours les choses du chaos vers la beauté, vers le merveilleux, et donc passe du chaos, de l'informe, à quelque chose d'ordonné. Et l'obéissance permet cela, mais grâce à cause de la désobéissance d'Adam, il y a le chaos qui revient dans l'humanité, et c'est le bazar. C'est même plus pire que le bazar, c'est l'horreur, quoi. Bon, tout ça pour vous dire que Jésus-Christ, la première chose qu'il a faite, c'était de racheter ça. C'était de racheter la désobéissance d'Adam et de ramener, permettre à la création, permettre aux êtres humains de retrouver cet ordre de Dieu qui est la paix, qui est la vie, qui est la croissance, qui est la beauté, qui est le merveilleux de tout ce que Dieu fait. C'est de quitter le chaos. Et puis, une deuxième œuvre à travers l'obéissance de Jésus-Christ, c'est la croix. C'est la rédemption. C'est le fait que, par son obéissance, il a allé jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de la croix, et c'est ça qui a permis à Dieu de ramener la vie en nous. Et donc, il y a un verset qui parle de cela en... Non, c'est pas ça. Ah, je l'ai pas mis, celui-là, mince. Bon, je vous le lis. C'est en Philippiens 2:8. Il nous est dit que Jésus s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. C'est extrême quand même. Là, on a un exemple extrême. L'obéissance jusqu'à la mort. Il y a un truc qui est complètement fou avec Jésus, c'est que sa destinée, sa mission sur terre, c'était de mourir. Il est né pour mourir. Et j'ai envie de dire, c'est le seul. On n'est pas créé pour mourir. Mais Jésus, lui, il est venu pour mourir. Et personne ne meurt facilement. Parce que ce n'est pas dans l'être humain, ce n'est pas dans les gènes de mourir. On est programmé pour vivre éternellement. Et donc, ça a demandé à Jésus toute sa force, toutes ses ressources pour obéir jusqu'à la mort. Et dans ce passage qui est projeté, on a un peu l'envers du décor de ce moment où il va à la croix. En hébreu, on peut lire, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le sacrifice de Jésus était un acte d'obéissance. Et comment Jésus a supporté cette mission? Comment a-t-il pu trouver la force d'aller jusqu'au bout de cette obéissance? Eh bien, on le voit dans ce jardin de Gethsémané, en Luc 22, où il y a Jésus qui crie, il est à bout, il va être pris, emmené à la croix. Et là, il crie vers son Père et il dit: « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » On peut imaginer Jésus presque au bord de craquer. Il imagine à un instant que cette coupe s'éloigne de lui. Et finalement, le Fils en lui trouve la force de dire: « Non, Père, pas ma volonté, mais la tienne. » Et ce que je vois clairement dans ce passage, c'est que c'est le Fils en Jésus qui a triomphé. C'est que c'est le Fils en Jésus, dans ce moment extrême et ultime, qui a trouvé la force d'obéir au Père. C'est au-delà de le disciple qui obéit à Dieu. Il lui a fallu toutes les entrailles du Fils, tout l'amour du Père pour accepter d'aller là. C'est le Fils qui a pu s'abandonner dans les mains de celui qui l'appelait Abba, Papa. À ce moment-là, il a eu une confiance absolue et il s'est offert en sacrifice, une obéissance parfaite. La force du Fils, c'est son Père. La force du Fils, à ce moment-là, c'est son Père. Et je crois qu'il y a là une clé. En tant que chrétien, Dieu met une destinée en nous, met des rêves, met des choses merveilleuses dans notre vie. Et on y va avec tout notre cœur, on y va avec tout notre amour. Et sur ce chemin, il y aura des moments de souffrance, il y aura des moments d'épreuve. Parce que ce que vit Jésus, nous le vivons à notre degré, à notre manière. Mais dans ces moments-là, pour rester, pour tenir le cap, pour garder notre obéissance, c'est le Fils en nous. C'est dans le Fils en nous qu'il faut compter. C'est lui qui va avoir la force d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous propose, de ce que Dieu a prévu pour nous. Et on connaît l'histoire de l'Église, on connaît l'histoire des chrétiens. On peut lire peut-être ces journaux comme Porte ouverte, Envoi, ou des chrétiens persécutés. On se dit, mais c'est incroyable, des gens qui acceptent la persécution juste parce qu'ils sont chrétiens, alors qu'une simple parole, « Je renie le Christ », suffirait pour être libéré de l'épreuve. Mais ils ne le font pas, parce qu'il y a en eux quelque chose de plus fort. Et cette détermination trouve toute sa force, tout son développement, toute sa puissance dans la relation du Fils au Père, de la fille au Père. Et je crois qu'il y a là une clé pour nous. Gloire à Dieu, grâce à Dieu, nous ne sommes pas, je pense, dans des grandes épreuves ici en Occident, au moins en comparaison avec ce qui peut se passer ailleurs sur la planète, mais ce n'est pas une raison pour négliger cela. Je crois qu'au contraire, il faut nous préparer. Je ne veux pas faire le prêtre de malheur et annoncer des choses, j'en sais rien. Mais je crois que c'est important de cultiver cela et de vraiment approfondir notre relation au Père, notre connaissance au Père, qu'il faut que le Fils en nous, fille en nous, grandisse, soit forte pour obéir jusqu'au bout. Alors j'en viens maintenant à nous. J'ai parlé de Jésus, notre obéissance en tant que fils et filles. Nous déjà, on part avec un handicap par rapport à Jésus. On n'est pas Jésus. Et il y a même, alors c'est Paul qui dit: vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Et il y avait un esprit qui agit dans le monde et qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et dans d'autres versions, c'est les fils de la désobéissance. Et donc avant de devenir chrétien, avant d'être en paix par Jésus-Christ, nous faisions partie de cette famille, les enfants de la désobéissance. Il y a quelque chose presque d'inné, j'ai envie de dire, c'est une maladie en fait, c'est le péché simplement, qui fait que dès tout petit, on commence à manifester les signes des fils de la désobéissance. Et c'est pour cela que nous avions besoin de naître de nouveau. Être chrétien, ce n'est pas « Ah, maintenant je décide, ça va changer, ma vie va changer, je vais aller à l'église tous les dimanches, etc. etc. » C'est bien ça, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Ce qui se passe, c'est « Tu es né de nouveau. » Et c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas senti, mais c'est une vérité à saisir par la foi. Dieu nous fait naître de nouveau. Et c'est cette nouvelle nature en nous, le fils et la fille qui est né, qui est capable de ne plus faire partie de ses fils de la désobéissance, mais d'appartenir justement à cette famille qui obéit et qui trouve sa joie dans l'obéissance. Il y a quelque chose de nouveau qui est là. Nous sommes nés de nouveau. Et en plus de cela, nous avons reçu un appel, comme les marins. Et des fois, on a ces images des marins, ces petits films, ces histoires des marins, l'appel du large. Il y a quelque chose qui le pousse à quitter tout, peut-être même sa belle, parce que l'appel du large est plus fort. Et nous, en fait, on a un appel qui est irrésistible, irrépressible en nous. Et peut-être on l'imagine, on l'a intuitivement, mais la Bible en parle comme un appel pour la gloire. On est en fait sur une route vers la gloire. Alors ça peut paraître bizarre, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté pour réfléchir à ça. Dieu dit à plein de reprises, notamment en Romains 8 et en Hébreux 2, que le Père aime et veut conduire ses fils à la gloire. Et pour cela, ils suivent Jésus sur le chemin. Et donc, le bout du chemin, la fin du chemin, ce n'est pas la croix, c'est la gloire. Peut-être ça passe par une croix, mais après la croix, parce que ce n'est pas la fin, il y a la gloire. Et c'est vrai que quand on devient chrétien, il y a quelque chose de beau qu'on peut capter, qu'on peut des fois capter dans la louange, dans ces temps d'adoration, on sent qu'il y a quelque chose de merveilleux, d'indescriptible, on ne trouve même pas les mots pour exprimer tellement c'est beau. Notre destinée, c'est ça. Et tout ce qu'on fait sur la terre, finalement, c'est ce chemin qui mène à la gloire et ce chemin qui parle, qui témoigne de cette gloire et qui même répand de cette gloire autour de nous. Quand on témoigne, quand des gens entendent notre témoignage, quand ils sont touchés, quand ils viennent à Jésus, il y a une gloire qui vient. Il y a une gloire qui se déverse. Mais aussi, on sait que dans notre vie chrétienne, des fois, on a l'impression de tout perdre. Et on a l'impression de ne pas aller vers la gloire. On a l'impression, au contraire, que bah, finalement, devenir chrétien, c'est plus de la souffrance, c'est des problèmes. Et ça, c'est aussi quelque chose que Jésus a bien montré. Parce que Jésus, en fait, il fait ce mouvement, il descend, il était à la gloire, lui, il est né là-dedans, il vient de la gloire, il a quitté la gloire par son choix, il est venu sur la terre, et puis il est venu à notre niveau, et puis là, ça ne lui suffisait pas, il est encore descendu plus bas, il est devenu le pire, l'esclave des hommes, au point de mourir pour tous, à la croix. Et à partir de là, Dieu le fait remonter. Et nous sommes toujours dans la même trajectoire. C'est-à-dire que peut-être que quand on devient chrétien, on descend encore d'un niveau, on a des problèmes, on a des difficultés, mais c'est un niveau de ce qu'on appelle de dépouillement, de mort à soi-même, mais toujours pour remonter dans la gloire. Et je crois que c'est important qu'on garde cette vision de notre vie, de notre futur. C'est que notre futur est glorieux. Et ce n'est pas que des mots, ce n'est pas juste un rêve, une utopie, c'est une vérité biblique. Nous sommes appelés à la gloire. Et c'est pour cela qu'on supporte de descendre. C'est parce qu'on sait qu'après on va remonter. Et pour aller à la gloire, eh bien, l'obéissance est nécessaire. La désobéissance nous fait dévier du chemin. La désobéissance nous fait nous égarer. C'est exactement ce qui se passe dans le peuple au désert. Le peuple d'Israël, ils sortent d'Égypte, ils vont vers Canaan, c'est leur gloire. C'est le pays découlant de lait et de miel. C'est le projet de Dieu, le rêve de Dieu pour eux. C'est leur gloire. Mais eux, par leur désobéissance, ils s'égarent dans le désert. Ils deviennent impasse. Ils tournent en rond. Dieu a de tels projets pour nos vies. Dieu a de tels projets pour nos vies. Vraiment, prenons le temps de l'écouter, de vérifier notre cœur par rapport à l'obéissance et de nous laisser être repris par lui pour ne pas rater cette gloire. Et je crois que Dieu veut plus que nous, la gloire, pour nous. et il prend soin de nous beaucoup plus que nous-mêmes. Alors, quand j'ai réfléchi sur l'obéissance, j'ai réalisé que nous avons à apprendre l'obéissance. Le Fils a appris l'obéissance, Jésus a dû apprendre l'obéissance, donc à plus forte raison nous. Et c'est vrai que l'obéissance, c'est quelque chose qui est progressif. On n'est pas toujours à un même niveau d'obéissance. Quand on devient chrétien, quand on est un petit enfant dans la foi, on obéit à la première chose qu'on comprend, mais notre compréhension s'affine de la volonté de Dieu. En fait, on obéit à la volonté de Dieu. C'est ça. Et on comprend de mieux en mieux la volonté de Dieu, et donc notre obéissance progresse. Et on le voit bien avec Moïse. Alors, c'est une caricature. Moïse, à un moment dans sa jeunesse, il a grandi à la cour de la princesse d'Égypte, et puis un jour, il a une intuition, il a une pensée, il a une conviction, c'est qu'il est un Hébreu et qu'il faut qu'il aide ses frères hébreux. Et donc, il commence à appliquer cette volonté qu'il a comprise de Dieu et il le fait à sa manière. Et il tue un Égyptien et ça lui fait plein de problèmes. Et on connaît l'histoire. Et là, on a bien un exemple de quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu à sa manière, selon son interprétation, il fait les choses. Il se trompe. Alors, ce n'est pas tout le temps comme ça, bien sûr, mais ça peut arriver. Et c'est différent. Après, on voit Moïse qui avance, qui progresse et qui apprend à écouter Dieu de manière beaucoup plus précise. Et au fur et à mesure qu'il progresse, Dieu lui confie des responsabilités et l'obéissance qui lui est demandée est de plus en plus précise, de plus en plus fine. Et c'est exactement ça qui se passe pour nous. Au début, nous lisons la Bible, nous la comprenons et puis on comprend les grandes lignes. Ne tue pas, ne vole pas et on le fait. Alors, voler c'est extrême, mais tuer c'est extrême. Peut-être voler, toutes les grandes lignes on les fait, on applique notre vie à ce qu'on comprend. Mais il y a un deuxième niveau, c'est qu'on commence à entendre la voix de Dieu dans notre cœur, on commence à comprendre vraiment des choses que Dieu nous dit personnellement et là aussi, on applique nos vies et on commence à lui obéir selon la voix qu'on entend. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que autant on n'aime pas se conformer à des règles, à des règlements, à des « fais ceci, ne fais pas cela », mais quand on entend la voix du Père, notre cœur a envie de bouger. La voix du Père fait bouger les fils et les filles, parce qu'il y a tout l'amour dedans. Et c'est ça qui nous fait bouger. Quelles sont nos motivations pour obéir? Moi, j'en vois trois. Il y a la peur. Un esclave, j'imagine, il obéit par peur. Sinon, il se fait taper, il se fait punir. Donc, c'est la peur. C'était sûrement ça qui devait se passer avec le peuple dans le désert. Les Juifs, les Israélites dans le désert. Dieu devait se montrer terrible pour qu'ils obéissent. Et c'était par la peur. Une autre motivation, c'est la récompense. Ça, je crois, on passe tous un petit peu par là. C'est le salarié. Pourquoi il obéit à son patron? Parce qu'il y a le salaire derrière. C'est une motivation normale, quoi, ça se vaut. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. On peut être comme ça en tant que chrétien, c'est facile. Hein. On veut la bénédiction, on veut être béni, alors on obéit. Et Dieu est patient avec nous, il nous aime. Donc je ne crois pas qu'il y ait vraiment de problème de vivre ces choses-là. Le problème, c'est d'y rester. C'est de rester juste sur ce mode-là. Nous sommes appelés à plus. Je crois que la motivation pour l'obéissance, celle que Dieu désire, la plus saine, c'est l'amour. Et c'est seulement un fils qui peut vraiment vivre ça pleinement. C'est l'amour du Père qui fait bouger le fils, qui motive le fils. Le fils n'est même pas intéressé par la récompense. Il est héritier, il a tout. C'est pas ça qui va le motiver, c'est l'amour du Père. Je crois que là, on a le niveau le plus haut. Celui qu'il nous faut viser. Et c'est confirmé absolument par cette très belle parole en hébreu. C'est la prochaine slide, une des dernières. Hébreu 12. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? On voit ici tout l'amour de Dieu. Là, Dieu parle de quelque chose de difficile, de délicat, quand on désobéit. Et là, ce qui est révélé à travers ces paroles, c'est l'absolu contraire du père fouettard. C'est l'absolu contraire d'un Dieu au cœur dur. Quand on désobéit, il y a quelque chose en nous qui s'éveille, notre conscience, le Saint-Esprit qui utilise notre conscience, et il y a un signal rouge qui clignote. On le sait. On le sait quand on désobéit. Pas besoin que quelqu'un d'autre te le dise. On le sait. D'ailleurs, quand quelqu'un d'autre me le dit, ça me dérange, ça m'énerve, parce que je sais qu'il a raison. Mais la tendance d'un être humain, notre réaction quand on se trompe ou quand on désobéit, c'est de nous éloigner, c'est de se cacher. La faute nous coupe de l'autre, de nos parents, notre patron et de Dieu. Et Dieu connaît notre cœur. Il connaît notre fonctionnement humain. Et il ne veut pas d'une relation maître-serviteur, disciple, obéi. Je suis le maître. Il veut cette relation de père à enfant. Et autant la désobéissance nous éloigne de Dieu, autant l'amour du Père nous ramène à lui. Et c'est par l'amour qu'il veut nous ramener à l'obéissance. Pourquoi un fils revient même honteux en baissant la tête ? Moi, je suis papa poule. Et j'ai eu le bonheur d'avoir beaucoup de temps avec mes petites filles. J'ai deux filles. Alors maintenant, elles sont plus grandes. Mais... Et je me rappelle, alors j'ai mon aînée, elle est sage, entre guillemets. Elle ne fait pas de vagues, etc. Mais la deuxième est pleine de vie, pleine de turbulences. Et donc, c'est elle que j'ai dû reprendre le plus de fois dans son enfance. Et je me rappelle, quand elle faisait une bêtise, elle mettait ses mains derrière les fesses, comme ça. Et je lui disais, viens ici. Et elle venait. Elle n'en menait pas large. Elle mettait ses mains derrière les fesses et se protégeait, comme ça. Mais elle venait. Et ça fait fondre le cœur d'un père. Elle vient. Pour moi, ça montrait qu'il y a quelque chose de réussi. Parce qu'elle sait que je l'aime. Et même si elle sait très bien qu'elle a fait une bêtise qu'elle n'aurait pas dû, elle a cette force de venir vers moi, son père, parce qu'elle sait que je l'aime. Et c'est pas que je lui donnais jamais de fessée, j'ai fait ça. Mais elle venait quand même. Parce qu'il y avait l'amour. Et avec Dieu, c'est ça. La correction parle d'amour. La correction parle d'amour. Elle dit... Je sais que tu peux changer, que tu peux devenir meilleur. Je crois en toi. Elle dit, je ne te laisserai pas t'abandonner à quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas bon, qui te flétrit, qui gâche ta vie et peut-être celle d'autres. Je ne te laisserai pas faire ça. Je ne te laisserai pas te détruire parce que je t'aime. Elle te dit, je vois, il y a ce piège qui va se refermer sur ta vie et je ne veux pas que tu le fasses. La correction, c'est de l'amour. Avec Dieu, c'est de l'amour. Et j'avais cette pensée pendant la louange que Dieu, à travers ce qu'on vit avec lui, veut aussi restaurer, consoler les fils et les filles brisés au milieu de nous. Ce qu'on a vécu avec notre Père terrestre a peut-être été désastreux, a peut-être laissé des marques et des blessures dans nos vies. Mais ce que Dieu veut vivre avec toi, il veut te restaurer. Et faire d'un fils brisé un fils épanoui, heureux, et dans les bras de son père aimant. Il veut vraiment vous l'apprendre, puissamment, tellement puissamment. Dieu nous aime. Et je vais terminer avec cette idée que notre obéissance, motivée par cet amour incroyable, va ouvrir des portes merveilleuses pour Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est vraiment ce qu'il va faire. Alors ayons conscience de l'enjeu de notre obéissance, de tout ce qu'il y a derrière. Et acceptons cette correction pleine d'amour de notre Père. Je crois qu'on va vivre des grandes choses à Montpellier, simplement parce que c'est impossible que ce soit autrement. Dieu rêve, Dieu a des plans merveilleux, et c'est impossible qu'il n'en ait pas pour Montpellier et pour nous cette année. Et je crois que c'est en étant vraiment ses fils et ses filles proches de lui qu'on se donne toutes les chances de vivre ces projets-là. Soyons bénis.